C'est parti pour un dimanche de campagne avec un 8 mai très politique cette année au lendemain de la réinvestiture d'Emmanuel Macron. Alors que le président réélu promet un quinquennat nouveau, ses adversaires montent au créneau, bien décidés à occuper le terrain. Ainsi Marine Le Pen, brusquement revenue de vacances après 2 semaines de silence. Déplacement dans le Pas-de-Calais pour lancer la campagne des législatives sur le thème « La véritable opposante à Emmanuel Macron, c'est moi ».
La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde.
Rire tout le monde, pas si sûr. OPS, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale provoque bien des remous, surtout parmi les anciens. Pourtant, tous n'y sont pas opposés. Lionel Jospin s'est exprimé à ce sujet aujourd'hui.
Je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable à l'accord.
Favorable, mais, car il y a un mais, vous verrez lequel. De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'en finit pas de se féliciter de cet accord. Pour lui, c'est tout simplement du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité politique.
Ce qui n'avait été fait ni par le Front populaire, ni par le programme commun, nous l'avons fait.
Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir Claire.
Au programme des Bobineaux ce soir, les précédents en matière d'union de la gauche, car il y en a quand même eu d'ailleurs, quand ils ont été remis en cause, ça a fait du bruit. La preuve avec Georges Marchais.
J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris.
Alors on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est clair. Également au sommaire de cette émission, la semaine politique de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef. Au like citoyen avec Alex Darmon, youtubeur politique. Bonsoir Alex.
Bonsoir Claire.
Ce soir, on va parler d'un documentaire.
Oui, d'une série documentaire, 5 ans à l'Élysée avec comme tête d'affiche Emmanuel Macron.
Eh oui. À nos côtés pour nous accompagner jusqu'à 19h, Astrid de Villene, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service politique du HuffPost. Et Olivier Perroux, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à l'Express, où vous suivez plus particulièrement la gauche.
Exactement.
Ça veut dire que vous avez eu du boulot cette semaine. Hein.
Oui, peu de sommeil.
Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi à Fred Milano à la réalisation et à Mathias Alléon à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Ça, c'était hier, les coups de canon tirés depuis les Invalides, juste après la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, dans la salle des fêtes de l'Élysée. Cérémonie introduite par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui s'est un peu embrouillé dans le décompte des voix, mais l'essentiel n'était pas là. Il était dans le message qu'il souhaitait faire passer.
À l'occasion de votre première investiture, j'avais cité Chateaubriand. Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. À l'orée de votre second mandat, je compléterai volontiers les mots de Chateaubriand par ces mots-ci de Victor Hugo. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir.
Et Laurent Fabius de faire une petite leçon de droit au chef de l'État devant tout ce que la République compte de personnalité pour une telle occasion. Parmi les invités, François Bayrou, moins lyrique que Laurent Fabius, mais disant à peu près la même chose, à savoir qu'hier n'est pas aujourd'hui.
C'était très différent d'il y a 5 ans. Quand c'est une première investiture, il y a cette joie, cette déferlante. Et là, l'enchaînement des difficultés... Il est sans précédent.
2022 n'est donc pas 2017, même si le président reste le même. Mais lui aussi le promet, il n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.
Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.
Un mandat nouveau qui, pour lui, sera le dernier, mais pas question de rester les bras croisés. Le président veut agir.
Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique. Agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos outre-mer.
Voilà donc le programme qui attend le président pour cette. C'était donc hier à l'Élysée. Astrid de Villene, vous étiez sur place pour cette cérémonie d'investiture. Emmanuel Macron insiste, président nouveau, mandat nouveau, mais c'est toute la difficulté quand c'est la même personne qui se succède à elle-même.
Oui, il fallait oser hein, d'ailleurs dire je suis un président nouveau. En fait, c'est pas très surprenant puisque depuis
D'ailleurs, ça a commencé dans l'entre-deux-tours, mais depuis sa réélection le 24 avril, Emmanuel Macron n'arrête pas de parler de nouveautés, et notamment de cette fameuse méthode nouvelle, mais dont on peine en fait à voir les contours. Donc, je crois que maintenant, il va falloir passer à la deuxième partie de son discours de samedi, c'est-à-dire la fameuse anaphore qu'il a utilisée pour dire agir. Mais c'est bien de dire qu'il va agir, mais maintenant, il faudrait qu'il agisse, parce que on attend quand même un gouvernement depuis maintenant 15 jours. On attendait des actes forts d'urgence dont il avait parlé pendant sa campagne sur, par exemple, le pouvoir d'achat. On ne les a toujours pas. On ne perçoit même pas ses premiers textes de loi. On a essayé, nous, au HuffPost, d'enquêter un petit peu sur le pouvoir d'achat, qui doit être un des premiers textes au mois de juillet. On a du mal à voir les contours de ce chèque alimentaire, alors qu'il y a une urgence pour les Français. Donc, est-ce qu'il résiste au fait de pas avoir envie tout de suite de rentrer dans la campagne des législatives qui s'avère difficile, puisque on va en parler, la gauche s'unit. Est-ce qu'il a du mal, et ça on le voit, à trouver vraiment la première ministre, le premier ministre, qui correspond à tous les critères qu'il a donnés, et ils étaient nombreux depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, alors c'était une cérémonie assez classique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente, je pense, dans l'opinion.
Alors, sur la suite des événements, on y reviendra évidemment tout à l'heure, pour ce qui est des législatives, du point de vue de la majorité, et pour ce qui est de la recherche du Premier ministre. Mais sur cette cérémonie, Thomas Legrand, vous aviez peut-être un mot à rajouter ?
Oui, sur cette cérémonie, la nouveauté, c'est vrai qu'on l'attend, parce que il a peut-être donné trop de précisions sur le Premier ministre qu'il voudrait, trop de critères. Alors, est-ce qu'il attend parce qu'il trouve pas ? Alors, les macronistes nous disent « Ah oui, c'est le maître des horloges, pour l'instant, c'est le moment Mélenchon, il faut laisser passer. » Et puis, comme ça, il veut faire une courte campagne, etc. Vous savez, quand on ne maîtrise pas les événements, on feint de les organiser. C'est la vieille phrase qu'on peut appliquer pour quasiment toutes les situations politiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de la nouvelle méthode, on la voit pas vraiment, parce que les députés, les investitures, on sait que tout se passe à l'Élysée, donc il n'y a pas encore cette espèce d'horizontalité qu'on nous a promis. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la place de l'écologie dans ce discours, dans le discours et de Laurent Fabius, mais surtout évidemment d'Emmanuel Macron. Et quand on parle à ce point d'écologie et de changer tous les repères dans ce domaine, au moment de l'investiture, c'est vraiment qu'il va falloir des actes qui suivent. Et on a hâte maintenant de savoir qui va être nommé Premier ministre et quelles seront ses premières actions, quel sera son premier discours de politique générale.
Voilà, quel sera le dispositif gouvernemental, puisque ça ne va pas s'arrêter au Premier ministre. Olivier Perroux, sur cette cérémonie.
Il suffit pas de dire j'ai changé pour construire un nouveau récit de président. Enfin, un ancien président de la République avait déjà essayé de faire ça, ça n'avait pas marché. Là, Emmanuel Macron, il va falloir que, puisqu'il a répété 9 fois le mot agir quand même, il va falloir qu'il agisse.
Il peut le faire, c'est comme le sketch de Pierre Dac.
Exactement.
Il peut le faire,
exactement. Mais la clé reste en effet ce Premier ministre ou cette Première ministre, parce que c'est lui ou elle qui mettra en musique un peu le nouveau récit du nouveau Macron, si tant est qu'il y en ait un. Et pour l'instant, alors, il ne le trouve pas, il a visiblement aussi des refus, et puis il y a le fameux gouvernement à construire, où là aussi il y aurait des refus. Donc ça prend du temps, peut-être un peu trop d'ailleurs, et alors qu'il y a l'urgence écologique, il y a l'urgence du pouvoir d'achat, on rappelle quand même qu'il y a pris des coquillettes qui dépassaient l'1 euro, c'est un symbole je trouve. Donc Emmanuel Macron, qui en 2017 était un peu le président de l'espèce d'émancipation un peu personnelle, on peine à voir aujourd'hui le président de quoi il veut être. Quel est son vrai récit finalement? Je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas vu dans le discours samedi.
Alex Darmon, sur les réseaux sociaux à propos de cette cérémonie, à part la tenue de Roselyne Bachelot, il y a eu,
oui.
Quoi?
C'était elle d'ailleurs, la ministre de l'écologie, parce qu'elle était tout en vert.
Tout en vert.
Non mais en fait, ce qu'il y a eu, c'était plutôt sur la forme que sur le fond, sur les réseaux sociaux. Hein. C'est ce qui a intéressé plus l'avant.
C'est souvent le cas. Hein.
Voilà, l'avant-cérémonie, et d'ailleurs ça réagit de deux façons très différentes sur Twitter. C'est plus sur comment il va se comporter avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, avec les parents de Samuel Paty, quand on voit cette séquence, cette longue étreinte avec les parents de Samuel Paty, c'est un extrait qui a été beaucoup partagé, beaucoup liké, beaucoup commenté. Et quand vous allez sur TikTok, alors TikTok c'est le réseau social où c'est plutôt on danse, où c'est plutôt un peu décalé, et ben là c'est plutôt sur la forme. Emmanuel Macron était beaucoup trop maquillé, il y avait beaucoup trop de poudre sur son visage, on se croirait à Versailles. C'était vraiment ce qui ressort avec une vidéo qui fait des zooms, vous savez, des captures d'écran et qui montre les uns derrière les autres. Et pareil sur TikTok, la tenue de Brigitte Macron, comment ça réagit. Donc on s'est pas trop intéressé finalement au discours d'Emmanuel Macron, qui était l'un des plus courts, je crois peut-être même le plus court pour un président investi, mais plus sur cette relation aussi entre Nicolas Sarkozy et François Hollande qui a fait mourir de rire les spectateurs.
Alors oui, ça, Astrid de Vilaine, c'est quand même quelque chose de marquant, et on peut dire très franchement que Nicolas Sarkozy avait l'air beaucoup plus à l'aise que François Hollande.
Oui, parce que en plus on sait que leurs relations avec Emmanuel Macron sont meilleures, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé en tout cas en étant dans la salle des fêtes, c'est qu'on avait vraiment les yeux rivés sur ces deux anciens présidents qui avaient vraiment ça nous donnait la sensation qu'ils avaient pas du tout envie d'être là, ils faisaient la tête et surtout ils ne se parlaient pas. Donc ils étaient tous les deux presque dos à dos alors qu'ils étaient censés être côte à côte derrière un petit cordon.
On se demande d'ailleurs pourquoi ils étaient côte à côte, c'est le protocole qui
veut dire. Là, c'est la place des présidents, à côté il y a les évêques, à côté il y a, voilà, chacun sa place. On lui demandera d'ailleurs demain, François Hollande est l'invité de la matinale, on va lui demander comment il a vécu tout ça, évidemment.
Effectivement. On passe à notre rubrique au like citoyen, c'est avec vous Alex Darmon. Ce qui a retenu votre attention sur les réseaux cette semaine, hormis la cérémonie d'hier, c'est évidemment, vous allez nous le dire, un documentaire.
Oui Claire, j'ai voulu faire plaisir aux amateurs de séries politiques. Tout le monde en parle depuis mercredi. Suspense, amour et stratégie. Bienvenue dans 5 ans à l'Élysée. Oui, bon alors tout le monde se calme, hein. C'est une production élyséenne et ce n'est pas sur Netflix mais sur YouTube. Après Le Candidat, la mini-série digitale de la campagne du candidat Macron, qui au passage a été un énorme flop en termes d'audience. Dites-vous qu'entre le premier épisode et le dernier épisode, le nombre de vues a été divisé par 8. Eh bien les équipes d'Emmanuel Macron ne se sont pas découragées. Cette fois, elles ont même vu plus grand en se lançant carrément dans la série documentaire. Et on a déjà pu découvrir les deux premiers épisodes, des épisodes pleins d'action.
C'est quand même mieux quand c'est ouvert.
Voilà, le président ouvre une fenêtre. Hein. L'objectif L'objectif de cette série, comme son nom l'indique, retracer les 5 années d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et tout ça sous forme de trilogie, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, hein, mais sans les elfes et les hobbits. Une stratégie qui fait penser que le président de la République veut fédérer, renforcer sa communauté digitale, comme le font tous les youtubeurs politiques finalement. En tout cas, ce genre de série bilan, c'est une première pour un président, et surtout une première sur le digital.
Alors comment elle se présente cette série ?
Bah c'est assez classique en fait, une construction chronologique. On voit des séquences de travail du chef de l'État, de sa vie plus privée, mais aussi des moments qui ont émaillé son mandat, comme en 2018 lors de sa première visite au Salon de l'Agriculture.
Donc il faut m'appeler, me faire venir, mais pas me siffler dans le dos. Mais venez parler, dites-moi, pourquoi vous sifflez ?
Alors ce qui est intéressant en revanche avec ce format, c'est qu'il est diffusé avec le dispositif appelé Première sur YouTube. C'est comme le direct à la télé, on découvre tous en même temps les images. Bref, le monde d'avant dans le monde d'après en quelque sorte.
Et ça marche ce genre de série qui ressemble un peu, faut bien le dire, à du public reportage ?
Alors on va pas se raconter d'histoire, ça a pas été la folie. Pour le premier épisode, j'ai compté 5000 personnes de moyenne en direct tout au long des 40 minutes de programme. Hier, pour le deuxième épisode, toujours en direct, ils étaient à peine 1500, grosse perte. Et dans l'ensemble, on peut le dire, c'est assez faible. En revanche, là où c'est positif, c'est sur le taux de conversion de cette audience en abonnés. Par exemple, le premier numéro, entre le début et la fin de la diffusion, la chaîne YouTube du président Macron a gagné 3000 abonnés. C'est élevé pour une vidéo politique. Et si le pari était de recruter du public, eh bien, c'est mission accomplie.
C'est un bon début. Et puis pour la suite?
Eh ben, le dernier épisode doit être diffusé normalement d'ici la fin de semaine prochaine, avant le changement de gouvernement. Après, on nous a dit du côté de l'Élysée qu'il sera temps de se lancer dans le nouveau quinquennat et d'arrêter de se faire des films.
Merci beaucoup, Alex Darmon. Astrid de Vilaine, vous l'avez regardé?
Moi, c'est des formats qui ne m'intéresse pas beaucoup en tant que spectatrice, parce que je trouve que c'est vraiment un exercice de communication pur et parfait, mais sans même un peu d'exclusivité ou de critique. En fait, c'est beaucoup trop lisse, ça donne un Emmanuel Macron parfait. Les séquences sont très cut, hein, comme on dit en télévision, très coupées. On passe d'un moment à un autre. Je trouve que d'ailleurs, en termes de nouvelles méthodes, Emmanuel Macron et sa relation avec les journalistes, il y a un sujet. Moi j'aurais préféré que des journalistes en fait aillent à l'Élysée et aient des séquences exclusives, pas tout évidemment, mais je pense qu'un regard journalistique est toujours différent. Et puis ensuite, je me suis demandé si il voulait pas un peu copier Édouard, mon pote de droite, vous savez, ce film qui avait bien marché et qui, lui, avait été diffusé sur France Télévisions, sur Édouard Philippe, fait par un de ses grands amis qui est réalisateur de films et journaliste.
Il y avait du contenu politique, quand même.
Et bien, pour moi, qui était bien fait, même si, évidemment, Édouard Philippe avait eu un droit de regard puisque c'est son meilleur ami qui a monté le film. Malgré tout, on sentait que le réalisateur était vraiment journaliste parce qu'il posait au moins toutes les questions. Alors que là, il y a rien qui tâche.
Quand on est journaliste, l'ennemi, c'est la communication. Donc, c'est ce qu'il y a de pire.
Et on se demande aussi pourquoi ça a été diffusé maintenant, Alex Darmon.
Ça, on ne sait pas. Quand on pose la question à l'Élysée, ils ne savent pas vous répondre. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie. Les images, elles existent depuis longtemps. Ils les ont collées les unes derrière les autres. Et au final, ils en ont fait trois films parce qu'il fallait vraiment qu'ils occupent l'espace à un moment donné entre cette période de la campagne présidentielle et la campagne législative qui arrive. Il faut occuper l'espace numérique.
Ah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est occuper l'espace. Et je trouve que cette série montre à quel point Emmanuel Macron aujourd'hui donne l'impression de ne pas savoir forcément où il veut aller dans cette courte séquence qui va jusqu'aux législatives, parce que il voit un Jean-Luc Mélenchon qui réussit une union, en tout cas pour l'instant. Il voit Marine Le Pen de retour silencieuse, mais bon, en tout cas toujours présente. Donc ça montre peut-être d'ailleurs une inquiétude de la majorité du président de la République sur la suite des événements.
Thomas
Laurent. Il y a une petite chose qui est, il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que finalement son ce qui va, s'il gagne les législatives, ça sera surtout par la droite, par le centre droit. Or le discours par lequel il a fait un bon score, grâce auquel il a fait un bon score à la présidentielle, était un discours un peu écologiste et de centre gauche, et là le en même temps frotte un peu. Donc dans ce moment un peu compliqué, peut-être qu'il faut mieux montrer des belles images qui ne disent rien.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Allez, on va revenir maintenant sur l'actualité des derniers jours. Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a largement fait entendre le bruit d'intenses négociations.
Je pense qu'on peut parler d'un accord historique. Il enclenche, j'espère, le début d'une dynamique qui a un objectif, c'est faire en sorte d'aborder les élections législatives qui arrivent avec une perspective majoritaire.
Ça, c'était lundi matin. Manuel Bompard se réjouissait de l'accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Mais le plus dur était à venir. Il a fallu s'armer de patience pour que socialistes et insoumis en fassent autant. Et c'est finalement mercredi que les deux anciens meilleurs ennemis ont scellé leur avenir en commun. De quoi rendre fumasse l'ancien ministre Stéphane Le Foll.
C'est la fin du Parti Socialiste tel qu'il a existé jusqu'ici. C'est la fin aussi d'une idée socialiste, du socialisme français.
Conséquence de la naissance de cette nouvelle union populaire, écologique et solidaire, Bernard Cazeneuve a fait savoir qu'il quittait le Parti Socialiste. Quant à François Hollande, pas de départ à ce stade. Mais l'ancien président avait prévenu qu'il ne voulait pas d'une telle alliance. De quoi inspirer un clin d'œil cinématographique à Manon Aubry, la députée européenne La France Insoumise.
Vous savez, les éléphants, si je voulais faire une mauvaise blague, se trompent énormément.
Malgré ces perturbations, le patron du PS a fait valider son accord par les instances de son parti. Olivier Faure assume totalement l'esprit de cette union, fidèle selon lui à l'histoire du PS.
Le vrai Parti Socialiste, c'est un Parti Socialiste qui a accepté dans son histoire d'être un parti qui bousculait, qui a accepté l'idée d'aller vers même une forme de radicalité.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a fait réentendre la voix des Républicains. Vous vous souvenez, les Républicains, oui. Valérie Pécresse? Voilà. Eh bien, cette semaine, Christian Jacob est venu dire que pour eux, il n'y aurait pas d'alliance.
Pourquoi nous refusons l'idée du parti unique? D'abord, parce qu'on ne se reconnaît en rien dans la politique menée par Emmanuel Macron. Et ceux d'entre nous qui sont allés, vous vous souvenez qu'un certain nombre de ministres, à commencer par le Premier ministre, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, pour faire quoi? Quel est leur bilan à la fin?
Une position isolationniste que ne comprend pas Renaud Muselier, le président de la région PACA, un ex-LR devenu macroniste.
C'est-à-dire que c'est les seuls qui n'ont pas compris ce qui s'est passé au premier tour quand même. C'est-à-dire que, regardez, la totalité de ceux qui sont en dessous de 5 essayent de trouver des solutions pour survivre, pour apparaître, pour avoir une voix parlementaire. Et ma propre famille ne s'entend avec personne. Ils vont y aller tout seuls. Et aujourd'hui, ils correspondent plus, je dirais, à la secte du temple solaire qui va s'immoler et disparaître.
Ouais, il faut croire que la période inspire les dirigeants de droite. Éric Woerth nous a proposé cette semaine une variante de « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Valéry Giscard d'Estaing.
Mais LR n'a pas le monopole de la droite. Elle peut être de droite en quittant LR et peut-être un jour en le rejoignant à nouveau parce qu'LR aura changé.
Voilà, d'ici là, le camp de la majorité présidentielle compte bien profiter de ces atermoiements de la droite. En Macronie aussi, on a négocié cette semaine. Et c'est ainsi que jeudi soir est né Ensemble.
Ensemble, c'est le rassemblement, la volonté d'être soudés, d'être côte à côte pour porter le projet, les valeurs, les idées d'Emmanuel Macron.
Une confédération née sous le patronage de Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et Stanislas Guérini. Les quatre hommes étaient réunis au siège de La République En Marche. Pour un peu, on se serait presque vu dans une scène célèbre des tontons flingueurs. Le vent souffle sur cette campagne législative. Et si Marine Le Pen vient juste de rentrer de ses congés payés post-défaite présidentielle, Jordan Bardella était lui sur tous les fronts. Cette semaine, il a tenu à clarifier l'avenir de sa patronne.
Marine Le Pen ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron, on ne souhaite pas participer du saccage social. Donc, je vous le dis, Emmanuel Macron va avoir sa majorité. Si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, elle aurait eu sa majorité. À 5 semaines d'intervalle, le président, il a sa majorité. La question, c'est pas celle-là, si je peux me permettre. La question, c'est quelle opposition va avoir Emmanuel Macron pendant 5 ans.
À l'extrême droite, Éric Zemmour est réapparu lui aussi cette semaine pour sa première interview post-échec à la présidentielle. L'occasion d'analyser les raisons de ce score très loin de son ambition et de ses prévisions. Quant à savoir si cette déroute est de sa faute...
Ah non, je pense que c'est Poutine.
Un certain sens
bah
de...
Oui.
De...
Évidemment. C'est pas faux, hein.
Oh, mais c'est pas
et
que faux.
L'Ukraine et Renaissance. Et
un certain sens de l'autocritique, en tout cas pour Éric Zemmour, est donc l'occasion pour moi de vous citer Roff. J'assume et je ne regrette rien. Si je t'ai blessé, j'en suis navré. Quoi qu'il s'est passé, je ne peux plus rien effacer. J'assume mes erreurs, j'assume mes horreurs.
Merci beaucoup, Cyril. La carrière, il y en a des choses, hein. Dans cette semaine... politique.
Roff,
on va ouvrir, on va commencer par la gauche, hein, et on va ouvrir une page qui pourrait s'appeler « Il était une fois l'union de la gauche », car avant la nouvelle Union populaire écologique et sociale, eh bien, c'était le néant, a écouté Jean-Luc Mélenchon hier devant ses troupes et les responsables du PS, du PC et des Verts qui étaient là, réunis pour le baptême de la NUP. Puisqu'on dit comme ça maintenant.
Hein. Je dis Nupes.
Nupes, parce qu'il y a.
Il a bien dit Nupes, non ?
Jean-Luc Mélenchon.
Alors Jean-Luc Mélenchon, il a été très malin hier. Il a commencé par dire Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et puis au bout de 2 minutes, c'était un peu trop long dans son discours, donc il a dit Union Populaire comme avant, comme il faisait pendant sa campagne présidentielle.
Bon.
Mais disons Nupes, Nupes,
voilà.
Soyons libres.
Toujours est-il qu'il était là, et qu'on va l'écouter.
Depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Ce qui n'avait été fait, ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par Mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait.
Voilà, on verra tout à l'heure que c'est peut-être plus nuancé que ça, hein, Thomas Legrand, mais on va quand même s'arrêter sur cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon et sur ce moment qui a eu lieu hier à Aubervilliers. Vous étiez sur place, oui. Olivier Perroux, grand moment dans l'histoire de la gauche quand même.
Alors, à l'évidence, c'est un moment médiatique, un moment assez fort parce que... Presque, j'avais l'impression hier samedi d'être dans un univers parallèle, c'est-à-dire que
Monde était là quand même.
Tout le monde était là, mais c'est pour ça que j'avais l'impression d'être dans un univers parallèle. Ils étaient assis les uns à côté des autres, alors qu'il y a 3 mois ils étaient en train de s'insulter presque. Il y avait Julien Bayou qui était la chaise à côté de celle de Fabien Roussel, le communiste. Il y avait Olivier Faure à côté d'Emmanuel Bompard et les Insoumis. Enfin voilà, il y avait une espèce de moment, ce flottement général où finalement on avait l'impression qu'ils effaçaient tout ce qui s'était passé pendant la campagne. Mais en tout cas, il y avait 1500 personnes. Et il y avait un duel hier, en tout cas médiatique, entre l'investiture d'Emmanuel Macron dont on vient de parler et ce rendez-vous à Aubervilliers de la gauche unie, en tout cas pour l'instant, et il y a une espèce de duel qui s'est installé à distance. C'est vrai qu'on a vu Marine Le Pen arriver, mais pour l'instant, le seul duel que je vois, en tout cas politique, sur cette semaine, c'est entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Ils étaient tous là pour écouter Jean-Luc Mélenchon au moment de son discours ou pas ?
Pas tous, parce qu'il y a un personnage qui est parti pendant le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est Fabien Roussel, le communiste.
Il y avait un mariage, il paraît.
Alors, il y a une petite séquence un peu bizarre sur ce mariage. Alors, officiellement, il y avait un mariage, et puis nous, il nous a quand même dit qu'il ne savait pas, quand on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes parti, il ne savait pas que les chefs de parti étaient invités sur la scène, c'est ce qu'il nous a dit. Puis après, très vite, il a tweeté qu'il avait un mariage d'amis proches à Saint-Armand, en effet, etc. En tout cas, c'était quand même le grand absent de ce discours de Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas toujours facile, mais vous le dites, hein, de tourner la page quand on a été adversaire temps avant. Hein.
Oui,
c'est compliqué.
C'est la différence entre Julien Bayou, Olivier Faure et Fabien Roussel. C'est que Fabien Roussel a été communiste. Il a cru fortement.
A été candidat.
A été candidat. Il est toujours communiste. Il a été candidat. Et il a cru vraiment en ses chances, en tout cas au mois de décembre, au mois de janvier. Au moins faire un gros score. Finalement, il a fait un score quand même assez faible. Et là, il doit passer la main à Jean-Luc Mélenchon de gré ou de force, j'ai envie de dire. Et c'est assez difficile pour lui, oui.
Astrid de Villene.
Clairement, il se passe quelque chose à gauche, et il y a qu'à voir l'emballement médiatique, le fait qu'on en parle. Ils ont quand même été absents des radars hein, depuis pendant cette campagne, et pour cause, parce qu'ils n'arrêtaient pas, en effet, de se taper dessus les uns avec les autres, au point qu'ils s'annihilaient. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même, ils sont en train en fait de se sauver collectivement, et ils ont compris, mais sans doute un peu tard, que sans union, pas de salut. Donc, c'est ce que Cécile Duflot, qui elle a été beaucoup dans les accords d'appareil pour construire des coalitions en vue des législatives, appellerait un accord défensif, c'est-à-dire à la dernière minute. Ce qui est sûr, c'est que s'ils avaient fait cette coalition et cette grande photo de famille, qui en effet peut faire peut-être pas peur, mais en tout cas montre quelque chose à gauche, et les caméras sont revenues hein, au Parti Socialiste, qui était pas arrivé depuis des années. Est-ce que ça va suffire, ça on va voir, parce que c'est très tardif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont compris au moins les leçons du premier tour de la présidentielle, à savoir que les électeurs de gauche, eux, et ils l'ont dit au cours de toutes les enquêtes d'opinion depuis un an, ils veulent l'union.
Thomas Legrand. Les électeurs de gauche ont envie. Ils l'ont dit pendant toute la campagne, ils ont envie. Mais là, c'est vraiment un accord d'abord d'appareil. Alors Jean-Luc Mélenchon fait un grand discours très politique derrière. Les socialistes et les écologistes écoutent poliment, applaudissent et même participent au bruit de l'union. Mais plusieurs signataires, m'ont dit quand l'encre sera sèche, évidemment, on ne deviendra pas insoumis. Ils seront toujours socialistes, ils sont toujours pro-européens, ils seront toujours pour l'OTAN. Donc là, ils essayent de sauver des groupes. Et c'est pas une union politique comme certains peut-être sympathisants de gauche pourraient en rêver. Et d'ailleurs, quand vous entendez Lionel Jospin,
alors on va entendre tout à l'heure Lionel Jospin.
Il faut commenter ce qu'il dit, c'est quand même très étrange.
On va voir ce qui se passe au Parti Socialiste, mais quand même encore un mot par rapport à ce qu'a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Vous disiez à Astrid de Villene, les caméras sont revenues au Parti Socialiste. On a vu les caméras aussi devant le siège de la France Insoumise hein, cette semaine, Olivier Perroux. Et ça, c'est pas banal. On a quand même les journalistes ont fait le pied de grue.
On a fait le pied de grue devant le siège et certains dont je faisais partie ont pu aller même dans le siège pour voir un peu comment ça se passait. Bon, bien sûr, on n'avait pas accès à la salle des négociations, mais en tout cas, on a pu en parler avec beaucoup de négociateurs à l'intérieur. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans cette séquence au QG de la France Insoumise. Le premier, c'est que les Insoumis, on ne peut pas leur enlever ça, ils sont assez forts, ils ont compris que le bruit médiatique se faisait devant chez eux, donc il y a quelqu'un faussement naïvement qui a collé une affiche, une pancarte Matignon devant. Donc ils savent jouer de ça. Et l'autre chose, c'est à l'intérieur de ce bâtiment, c'est une fourmilière. Il y a énormément de gens qui travaillent, mais ils ne travaillent pas pour la NUPES. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'imprimer, de faire des petits packages d'affiches. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Et je pense que c'est là la clé, c'est que tous ces gens travaillent pour Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et le Parti Socialiste et les écologistes, quelque part sur ces deux dernières semaines, ont été obligés de s'asseoir devant cette évidence qu'ils travaillaient aujourd'hui pour un accord électoral, pour Jean-Luc Mélenchon.
Comme les écologistes ont signé très rapidement, les socialistes ont dû signer.
Ils ont mangé, on peut leur dire, ils ont l'espace de manger leur chapeau. Et ils font campagne pour Mélenchon.
Et sur les réseaux sociaux, Alex
Normand ? Sur les réseaux sociaux, il se passe quelque chose, c'est certain. On parle de NUPES, de ce hashtag, qui est quand même resté en tendance pendant 3 jours d'affilée, qui n'a pas bougé hein, pendant 3 jours. Donc il se passe quelque chose, mais dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Parce que quand vous avez un hashtag qui reste aussi longtemps, forcément il y a des bonnes choses qui en ressortent, et il y en a d'autres où on règle ses comptes avec ce hashtag. Et c'est ce qui s'est passé pour les dissidents qui commencent à apparaître, notamment chez les socialistes, qui montrent et qui écrivent, qui ne se présenteront pas sous l'étiquette, même s'ils ont l'investiture de NUPES, qu'ils iront tout seuls, je pense à Dominique Potier, le député actuellement, qui dit qu'il n'ira pas avec cette investiture-là et qui hashtagise, entre guillemets, avec le NUPES quand même pour bien montrer cela.
Hashtagiser, je ne connaissais pas.
Voilà, du premier groupe.
Mais passionnant, absolument. On en arrive, comme promis, au bobino de Thomas Legrand. Alors, il n'y a jamais eu d'équivalent auparavant à gauche, dit Jean-Luc Mélenchon, qu'on vient d'entendre, qui cite notamment le programme commun. Thomas, rappelez-nous l'histoire justement du programme commun en 1972.
Mesdames, messieurs, chers camarades, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la plus grande assemblée jamais réunie par la gauche.
Vous voyez, là aussi, c'est historique, la plus grande assemblée. C'est en 72, donc, en vue de la présidentielle de 1974. La gauche s'unit sur un programme commun établi après des mois de négociations entre communistes, radicaux de gauche et le PS de François Mitterrand, qui avait juste un an. L'accord est officialisé porte de Versailles lors d'un long meeting qualifié, donc, vous l'avez entendu, d'historique. Et Robert Fabre, président des radicaux de gauche, prend la parole en premier et il met l'accent sur la liberté pour rassurer les modérés, hein, parce qu'un accord avec le PCF, sous influence soviétique, ça fait quand même peur.
En adhérant à l'Union de la gauche, nous avons fait un choix politique qui est conforme à la tradition et à la finalité du radicalisme. Libérer l'homme des contraintes de l'économie, combattre le pouvoir corrupteur de l'argent, instaurer un socialisme humaniste, tels sont nos buts.
Voilà, et puis c'est au tour de Georges Marchais.
Si la politique du programme commun devient la politique de la France, vous participerez réellement aux décisions nationales dans tous les domaines et à tous les niveaux.
Vous voyez, déjà, on parlait de rendre le pouvoir au peuple. Enfin, le futur candidat de la gauche unie à la présidence de 1974, François Mitterrand.
Responsable du Parti Socialiste, je vous dis d'abord l'union. Ensuite, l'union sur un programme commun. Enfin, l'union sur un programme commun de gouvernement. Parce qu'après tout, nous sommes ici pour gagner les élections. Nous sommes ici pour gouverner. Nous sommes ici pour l'emporter.
Ah, on dirait Mélenchon Premier ministre. Hein. 74, la présidentielle est perdue de peu, mais à l'approche des législatives de 1978, donc en 1977, c'est la rupture de l'union de la gauche. L'EPC réévalue ses exigences, hein, plus de nationalisation, sortie de l'Alliance Atlantique, plus de hausse de salaire. Les trois partis négocient alors, et il y a une conférence de presse. Georges Marchais s'approche du micro pour faire le point. Et là, Robert Fabre arrive par derrière, donc le radical de gauche arrive par derrière et lui pique le micro des mains.
Tout le monde est prêt? Alors j'ai une déclaration à faire.
Non, non, bien avant.
Moi j'ai une déclaration à faire, je m'en
communiqué, j'ai un communiqué à vous donner.
Mais c'est quand même des drôles de méthodes.
Mais écoute, c'est quand même nous qui avons à dire ce que nous allons dire en premier.
Oui, je vous fais une déclaration. Au nom du mouvement des radicaux de gauche, si vous permettez. Les radicaux de gauche ont participé à cette réunion au sommet avec la volonté d'aboutir à un accord renforçant l'union de la gauche grâce à un programme commun répondant aux aspirations des Français et aux réalités de notre temps. Ils regrettent de constater que le Parti communiste a maintenu ses nouvelles propositions, bouleversant les principes et les équilibres sur lesquels avait été fondé le programme de 1972.
Voilà, c'est le PCF qui voulait faire capoter l'Union. Un ordre de Moscou, c'est ce que suspecteront les socialistes. Quelques années après, Georges Marchais fera encore mine d'avoir été surpris.
J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
Voilà. Ça, c'est collector.
Ah oui, c'est enfin, un classique.
Il y a quand même eu déjà des tentatives. Hein. On peut pas
oui,
dire
il y a
que...
eu des tentatives, mais c'est vrai que là où Jean-Luc Mélenchon a raison, au premier tour des candidats partout, ça n'était jamais arrivé.
Unique,
oui. Sauf que il y avait une technique avant, puisque c'était pas la tripartition, et il y avait une technique, c'était le rassemblement républicain entre les deux tours. Donc il y avait quand même une union possible entre les deux tours, et les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Il y a un petit jeu comme ça.
Alors on va
Jean-Luc
voir.
Mélenchon, c'est de bonne guerre.
On va voir dans un instant ce qui se passe au PS. Olivier Perrou, un petit mot.
Oui, quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est historique. C'est surtout que le rapport de force est inversé,
ah oui.
C'est-à-dire quand...
Dans ce sens-là, c'est historique.
Ben voilà,
c'est
mais c'est-à-dire
quand...
Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand le PCF quitte l'accord en 77, c'était la force montante, c'était le socialisme, ils avaient gagné énormément de villes en 76. Donc aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Il veut pas, comme disaient les communistes à l'époque, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas, comme disaient les communistes à l'époque, plumer la volaille socialiste. Au contraire, il en a besoin parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux et il sait qu'il en a besoin.
Alors à propos de la volaille socialiste, cet accord à gauche n'en finit pas de provoquer des remous au PS. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril Lacarrière, François Hollande parle de la disparition du PS. Bernard Cazeneuve a rendu sa carte. Lionel Jospin, lui, approuve le principe d'un accord, mais il parle d'une injustice à propos d'une candidate écartée à Paris. L'ancien Premier ministre avait précisément choisi de s'afficher aux côtés de la socialiste Lamia El-Hajra à Rage, dans une circonscription de l'Est parisien où c'est la candidature de Daniel Simonet, LFI, qui a été retenue.
J'ai toujours été pour l'union de la gauche. Or, un accord a été signé. Je n'ai pas participé à toutes ces discussions, mais je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable à l'accord. Je vois aussi qu'il éveille un certain espoir chez les électeurs de gauche. Or, je soutiens une candidate qui n'a pas été intégrée à ce jour à l'accord. Ce paradoxe s'explique tout simplement par le refus d'une injustice.
Voilà, une injustice pour Lionel Jospin dans ce cas précis, mais il y a beaucoup de remous dans beaucoup d'endroits à propos de beaucoup de candidats. Olivier Bérou, un petit mot quand même de l'attitude de Lionel Jospin, son rôle dans cet accord.
Si l'accord devait capoter dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, ce serait sur cette circonscription. Parce qu'en effet, le comportement de Lionel Jospin est assez étrange et ça montre à quel point cette circonscription, la 75-15 pour ne pas
Paris,
la nommer, Paris 20e arrondissement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'élection, etc., mais elle concentre quand même beaucoup de choses. Lionel Jospin a eu un rôle, pas actif pendant les discussions, mais il a eu Jean-Luc Mélenchon au téléphone avant le début des négociations avec les socialistes pour lui dire qu'il était favorable justement à cette dynamique autour de lui et qu'il fallait ouvrir la main aux socialistes, chose qui n'était pas encore fait à l'époque, enfin en tout cas il y a deux semaines. Et il avait aussi au téléphone Olivier Faure pour lui dire mais faut y aller, faut faire cette rupture vraiment avec le quinquennat d'Hollande, faut l'assumer coûte que coûte. Finalement, les choses se sont passées telles qu'on les a lues et entendues. Mais là, il soutient une candidate de la dissidence, en tout cas, qui n'est pas dans l'accord. Il faut savoir que les socialistes et les insoumis, sur cette seule circonscription, ont débattu pendant plus de 6 heures. Donc ce n'est pas anodin sur 58 heures de négociation. Alors, pour avoir discuté avec des insoumis depuis ce matin, puisque Lionel Jospin était avec Lamia El Haraj sur un marché, ils comprennent pas trop l'attitude de Lionel Jospin. Et juste pour finir sur sa circonscription, pourquoi elle est importante aussi? Parce que elle atterrit pour Daniel Simonet. Normalement, Daniel Simonet devait être candidate dans la 75-06. Sauf qui est candidat à la 75-06, c'est Sophia Chikirou, qui est une très proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un coup de billard à 1000 bandes.
Tout est dans le très proche. Hein.
Voilà, il y a un coup de billard à 1000 bandes qui est en train de se jouer et ça peut faire capoter l'accord, oui.
Voilà, et puis il y a Carole Delga qui attend peut-être de prendre la tête d'une fronde, on ne sait pas très bien, Astrid de Villene.
En tout cas, la présidente de la région Occitanie assume à micro ouvert qu'elle est en total désaccord avec cet accord justement, et en effet on voit bien que dans le sud-ouest chez elle a assez envie de soutenir des candidatures dissidentes et de renouveler ou de refonder, on n'a pas encore très bien les termes, le Parti Socialiste. Sauf que moi c'est un peu comme les autres éléphants, j'ai l'impression quand même que Olivier Faure est majoritaire, qu'il a eu une majorité à son Conseil national pour faire cet accord, donc qu'en fait il a les militants aussi derrière lui ou les très proches, enfin le Parlement de son propre parti. Et je rappelle aussi, parce que même nous journalistes parfois on l'oublie, le Parti Socialiste pèse 1,75% dans cette élection, donc c'est quand même très peu de réussir à encore se diviser sur 1,75%.
Voilà, du rififi au PS. Je précise qu'il y a aussi du rififi chez les Verts. Il y a cette tribune qui a été publiée dans Le Monde. Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Jean-Paul Bessé, trois anciens, députés européens qui parlent d'une escroquerie. Il y aurait beaucoup de choses à dire là au-dessus. Thomas, très très court parce qu'on va passer maintenant.
Juste sur les socialistes, faut imaginer, et je pense que la position un peu acrobatique de Lionel Jospin vient de là aussi. Il faut imaginer que dans près de 450 circonscriptions, il n'y aura pas de... Donc comment vont réagir les électeurs habituels des socialistes? C'est la première fois pour eux que ça va se... Est-ce qu'ils vont suivre l'accord ou ne pas suivre l'accord? Ça va être très compliqué, il va y avoir des discussions dans les familles.
Voilà, on va passer maintenant à Marine Le Pen qui avait disparu, qui avait juste envoyé un message vidéo dimanche dernier. Elle s'est rendue aujourd'hui à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais où elle sera candidate à sa réélection législative. La visite n'avait pas été annoncée à l'avance. Marine Le Pen a dit espérer que le RN entre en force à l'Assemblée pour contrer la politique des Emmanuel Macron. Elle s'en est prise également à Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a qualifié de fou du roi.
Disons que Jean-Luc Mélenchon, pour pouvoir gagner une législative, il faudrait qu'il accepte de se présenter déjà. Ce serait un bon début. La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture de l'opposant à Emmanuel Macron.
Voilà pour cette déclaration de Marine Le Pen, faite aujourd'hui à Ina Momin, à Stade de Vilaine. Il était temps qu'elle revienne, qu'elle reprenne un peu la campagne.
C'est sûr qu'elle a quand même fait une longue pause, hein, 15 jours. Elle a assumé en fait d'être en congé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a reçu, nous, dans les boucles Rassemblement National de journalistes, un communiqué ce matin très tôt pour nous dire il y a un déplacement, alors que c'était pas prévu. Est-ce que c'était pour répondre à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a quand même très durement attaqué la veille, hein, à la convention de la NUPES? C'est pour ça aussi qu'elle lui répond et qu'ils essayent tous les deux de réinstaller ce match qu'ils avaient eu en 2012, lors des législatives à Hénin-Beaumont, où Jean-Luc Mélenchon avait tenté d'aller l'emporter sur les terres de Marine Le Pen et il avait échoué. Ce qui est sûr, c'est que tous les deux, ils n'ont absolument pas la même stratégie dans cette campagne des législatives, et Jean-Luc Mélenchon assume parfaitement d'en faire un troisième tour, comme il le dit, et lui, d'assumer de vouloir aller à Matignon, quand elle, en fait, ne joue pas vraiment le jeu, et ses congés, ils sont peut-être aussi, ils disent aussi quelque chose du manque d'envie, du manque de motivation.
D'ailleurs, et du manque d'ambition aussi, par rapport à ce que dit la gauche.
Elle ne fait pas d'accord avec Reconquête, ce qui aurait pu l'aider, alors que on voit qu'Ensemble, au centre, et la gauche s'unit.
C'est pas la même culture politique que la gauche.
Non, mais je veux dire,
on suit le chef et puis après.
Oui, mais elle met pas toutes ses forces dans la bataille pour l'emporter. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, on l'a entendu, le dit lui-même. On ne veut pas gagner, on ne veut pas être les premiers ministres d'Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron aura la majorité, il l'a dit aussi.
Oui, il le donne déjà gagnant. Donc, oui, c'est une stratégie assez étonnante. Moi, je dirais presque de perdante.
Alors, du côté d'Emmanuel Macron, eh bien, on est persuadé que tout va bien se passer aux législatives. Pour cela, tout a été mis en place. Il y a une confédération qui a été annoncée cette semaine. Ça s'appelle Ensemble. Ça réunit La République En Marche, qui a changé de nom. Qu'elle va s'appeler la Renaissance. Il y a le Modem et il y a Horizon, le parti d'Édouard Philippe, avec lequel il y avait eu quelques désaccords. Mais à l'arrivée, donc jeudi, lors de la présentation de la nouvelle entité, tout le monde semblait content. Alors, on écoute dans l'ordre Richard Ferrand, François Bayrou et Édouard Philippe, tous les trois au micro de Simon Le Baron.
Nous avons quand même passé du bon moment. En tout cas, les choses se sont déroulées dans la bonne humeur.
Ce sont les négociations qui sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré.
Et je veux saluer François et Richard, qui ont été remarquables dans cette discussion. Nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques. Si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas ensemble. Nous serions un seul.
Ça, c'est magnifique.
Ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça veut pas, c'est frappé au coin du bon sens, on veut dire.
Voilà, exactement. C'est une évidence. La palissade.
Tout se passe pour le rafarinade. Toujours dans le vide, hein. On est toujours dans le vide qu'on décrivait tout à l'heure.
Exactement, voilà. Mais bon, première image, enfin, trois hommes, trois chefs de parti, quatre hommes, chaque fois. Encore une fois, et la critique a été faite à Emmanuel Macron de nombreuses fois, mais aujourd'hui...
Mais pardon, à gauche, c'était aussi des hommes. Hein,
Oui, alors si vous regardez la scène à gauche,
oui,
si vous regardez la scène...
Hier, les chefs de parti, c'est aussi
les
des hommes.
Les chefs de parti, je vous l'accorde. Mais les prises de parole... Il n'y a que Marine Le Pen, en effet. Mais les prises de parole étaient alternées à chaque fois. Non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la critique a été faite de nombreuses fois à Emmanuel Macron sur ce côté un peu, pour un parti qui s'appelle un peu Ensemble et Renaissance, c'est ça ?
Renaissance.
Voilà, oui. C'est Renaissance.
Comme
voilà.
Le groupe européen.
C'est mieux que Moyen-Âge quand même.
C'est mieux que Moyen-Âge, mais ça sonne pas trop Renaissance en tout cas. Ce qui est très drôle, c'est que ces trois hommes qui viennent de prendre la parole, François Bayrou, Édouard Philippe et Richard Ferrand, se sont quand même tirés dans les pattes pendant, allez, on va dire 6, 7, 8 mois pour justement cette bataille des législatives, pour réclamer leur dot, à savoir un nombre conséquent, un groupe à l'Assemblée nationale.
Du côté des réseaux sociaux, Alex,
du côté des réseaux sociaux, c'est intéressant parce que c'est Renaissance qui est monté en tendance, qui a viré en fait le hashtag NUP, mais pas Ensemble. Ensemble, personne n'a compris à quoi ça correspondait sur les réseaux sociaux. Vraiment, Renaissance est montée tout de suite. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les tweets qui étaient postés, parce que ça se passe exclusivement sur Twitter, hein, ce genre de choses, ils mettent en avant ce que vous disiez, hein, Olivier, sur le fait que c'était quatre hommes qui étaient là en face avec Stanislas Guérini, et que de l'autre côté, chez Jean-Luc Mélenchon, c'était pareil en fait. Et on a vu des gens de gauche qui ont réglé leur compte avec Jean-Luc Mélenchon en disant pourquoi vous mettez pas des femmes vous aussi en avant, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a critiqué le fait qu'il y ait que des hommes chez Renaissance pour cette présentation. Et donc il a été pris à son propre jeu en quelque sorte. On a repris son tweet, on l'a repartagé.
Alors on va dire un petit mot aussi des LR, on les oublie pas. Il y avait le Conseil national hier au siège du parti à Stade de Vilaine. Quelles sont les ambitions de ce côté-là? Éviter le plus possible les ralliements à Ensemble?
Ça va être difficile parce qu'on a vu samedi déjà deux candidats, enfin anciens députés LR, qui vont être investis par La République En Marche, Marine Brenier dans les Alpes-Maritimes et Robin Reda en Essonne. C'est peut-être moins qu'attendu, mais on a vu que La République En Marche se gardait bien sur à peu près une dizaine de circonscriptions détenues par les Républicains, de pour l'instant dévoiler leurs intentions. On sent qu'il y a des tractations en coulisses et que Nicolas Sarkozy joue sans doute un rôle. Mais c'est moins qu'attendu, parce que les Républicains ont un grand groupe à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que, exactement comme pour le Parti socialiste, ils sont empêtrés dans ces législatives à cause du score calamiteux de Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, les quelques affiches qui commencent à sortir sur les réseaux sociaux des candidats, on voit très peu le logo, on essaye de pas trop montrer, on met du bleu, bleu marine, bleu ciel. C'est assez fréquent quand on a fait un mauvais score.
Voilà, ça c'est pour les LR. Sur la semaine qui arrive, sera une semaine très particulière, évidemment. Il y a eu déjà aujourd'hui les cérémonies du 8 mai, 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, cérémonie avec cette déclaration de Volodymyr Zelensky, le mal est de retour. Et du côté de Vladimir Poutine, comme en 45, la victoire sera à nous. En ce moment, je crois que Emmanuel Macron doit être en train de participer à une réunion en visio avec les membres du G7 consacrée justement à l'Ukraine. Demain, il sera à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Ensuite, il ira à Berlin. Séquence très particulière. Et au milieu de tout ça, Astrid de Villene, faut trouver le Premier ministre.
Et il a bien dit, enfin l'Élysée a bien fait savoir que là pour l'instant c'était les premiers déplacements d'Emmanuel Macron sur le plan international, donc avec Strasbourg, journée de l'Europe, qui est un moment clé pour Emmanuel Macron, c'est dans son ADN politique, et Berlin, première rencontre avec Olaf Scholz depuis la réélection, et qu'ensuite, une fois que cette séquence très particulière, puisque c'est évidemment sur fond de guerre en Ukraine, serait derrière lui, il passerait le reste de la semaine à trouver son Premier ministre, puisqu'on nous a annoncé pas avant le 13 mai. Donc le 13 mai, c'est vendredi.
Ça, il ne peut pas y avoir de nomination avant. Il y a encore un conseil des ministres avec l'équipe actuelle cette semaine
normalement,
de prévu.
Je pense que oui. Après, on ne sait jamais. Est-ce qu'il est capable
Le 14 à 0h, c'est le nouveau mandat. Alors normalement, il faudra un nouveau Premier ministre. Il pourrait toujours le renommer Jean Castex, le temps d'en trouver un. Mais bon.
Et il a été demandé à Jean Castex d'avancer sa soirée de départ, qui était prévue le vendredi 13. Un peu plus tôt.
D'avancer sa soirée de départ.
Pas sa soirée, voilà, pour dire au revoir à ses collaborateurs.
Ah, donc ça va, le Premier ministre va être nommé.
Je sais pas,
peut-être en fin de semaine.
Il a refusé, Jean Castex, de repartir, quoi qu'il arrive. Il l'a dit qu'il ne voulait pas repartir, pour quelques jours, même jusqu'aux législatives. Donc ça ne sera pas lui qui sera reconduit, même pour quelques jours, je pense.
Il a intérêt à faire traîner les choses, Emmanuel Macron, Thomas Legrand ?
Je sais pas, en tout cas.
Je
redis qu'on nous explique qu'il veut faire une campagne très courte parce que la campagne très courte de la présidence. Si elle a marché. Et voilà, c'est pour ça que ça traîne. Mais je pense que ça traîne parce qu'il ne trouve pas l'équation, ni la personne, et le discours, parce qu'il fait tout seul. Le problème, c'est qu'il dit qu'il maintenant il va changer. Mais là, pour l'instant, il fait tout seul, et il s'occupe de l'Ukraine, de l'Europe, et il faut qu'il trouve un Premier ministre. Visiblement, c'est compliqué. Donc, quand c'est compliqué, on nous explique qu'en fait, c'est choisi. Mais ce qui compte maintenant, c'est quand même de trouver le Premier ministre et d'écouter son discours et de voir comment il va agir.
Allez, on n'a plus que 20 secondes, Olivier Perroux. Pour vous, s'il fallait choisir un Premier ministre, ce serait plutôt une Première ministre ?
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une Première ministre. Mais en tout cas, visiblement, pour l'instant, les choix sont assez réduits.
Difficile à trouver, Astrid de Villene ?
Pour moi, c'est essentiel. Je pense que pour les petites filles de ce pays qui n'ont pas connu Edith Cresson, c'est important, c'est un symbole.
Et même pour celles qui ont connu Edith Cresson et qui sont devenues grandes.
Peut-être même surtout.
Voilà, Alex Darmon.
Il y aura l'écologie aussi qui sera important, il le répète, et là c'est vraiment important. Il va falloir trouver quelqu'un qui a la fibre écologique.
Voilà. Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission.
Ne vous résignez pas.
Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Vive la République! Vive la liberté!
Vive l'écologie!
Vive la France!